Sunday on October 18th, 2018, from 10 a.m. to 4:15 p.m. in the auditorium.
And good morning, everybody.
Bonjour à tous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous attendons l'arrivée de Kelsan. Donc, vous pouvez vous relaxer, vous reposer. Si vous avez besoin de casques pour l'interprétation dans les différentes langues étrangères, nous avons des casques de ce côté, à ma droite, donc à votre gauche. Vous avez quelqu'un qui est debout, qui vient de lever la main. C'est à elle qu'il faut vous adresser. Donc, vous pouvez aller prendre un casque.
What does ICANN do? To reach another person on the internet, you type an address into your device, a name or a number. That address must be unique so computers know where to find each other. ICANN maintains and administers these unique identifiers across the world. Without ICANN's management of this system, the domain name system, or DNS as it's known, we wouldn't have a global, scalable internet where we can find each other. Within ICANN's multi-stakeholder model, civil society and internet users, the private sector, national and international organizations, governments, research, academic and technical communities are all represented. ICANN's community-driven policy.
Gardez le pas avec la technologie et l'innovation. L'ICANN a un modèle de développement de politique multiparte basé sur le consensus avec une représentation mondiale de la communauté. La concurrence et le choix. De l'accréditation de plus de 1000 bureaux d'enregistrement avec l'introduction de nouveaux domaines de premier niveau, l'ICANN permet d'améliorer la concurrence et le choix dans le marché. Quelles sont les fonctions qui sont coordonnées par l'ICANN? Le système de nom de domaine. L'allocation des adresses de protocole Internet, l'opérateur de registre ou les registres de paramètres de protocole, les systèmes de serveurs racines, la gestion du système de domaine de premier niveau générique, le DNS du nom de domaine de premier niveau, ainsi que la gestion de la base de données de la racine. Sécurité et stabilité. L'ICANN soutient la sécurité et la stabilité par l'engagement, par la coordination et par la collaboration avec la communauté dans la mise en œuvre des normes telles que le DNSSEC. L'interopérabilité. Le travail de l'ICANN permet à de nouvelles technologies de s'épanouir en maintenant l'interopérabilité dans tout l'Internet au niveau mondial. Par exemple, la gestion des identifiants de protocole unique permet la communication pour assurer la sécurité de la communication entre les utilisateurs. La conformité. L'ICANN supervise les contrats et développe des politiques par le biais du consensus basé sur la communauté. La fonction de conformité de l'ICANN s'assure de la conformité consensus. Qui est impliqué? Un certain nombre de groupes, chacun d'entre eux représentant un intérêt différent dans l'Internet. Tous se rassemblent au niveau du conseil d'administration. Les organisations de soutien sur l'adressage, sur les noms de domaine, sur les noms génériques. La communauté consultative, l'at-large, les gouvernements, le système de zone racine, la sécurité et la stabilité. Et les entités consultent le groupe de liaison technique et le groupe de travail sur le génie Internet. Comment est-ce que je peux participer? Inscrivez-vous pour les mises à jour sur myican.org. Rendez-vous sur les différents forums de consultation publique sur le site Internet. Participez aux réunions publiques en personne ou en ligne et joignez-vous à une des organisations de soutien ou à un des comités consultatifs de l'ICANN. Très bien. Alors, bienvenue. Nous sommes à la séance du dimanche pour les nouveaux. Voilà Ginny à côté de moi, Ginny Ehlers, et moi-même, Janice Dumalang. Et donc, nous sommes vos hôtes pour cette journée. Nous allons donc vous présenter le labyrinthe qu'est l'ICANN et nous allons vous préparer à cette semaine qui sera pleine de contenu enthousiasmante, pleine d'expérience. Donc, nous sommes là pour vous accueillir et pour commencer ce voyage. Je vais passer la parole à Ginny. Je reviendrai à 13h30 pour la deuxième partie de l'après-midi. Donc, Ginny, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Ginny Ehlers. Je travaille pour l'équipe d'engagement des parties prenantes internationales pour l'ICANN. Je vais passer en revue les détails logistiques déjà. Pour cette séance et pour d'autres séances pendant la semaine, il y aura de l'interprétation qui sera disponible donc dans cette salle, puisque nous sommes dans la salle principale, et il y a des casques pour la traduction qui sont disponibles pour toutes les séances pour lesquelles l'interprétation est proposée. Vous pouvez donc trouver les casques si, par exemple, vous parlez ou vous posez des questions pendant cette séance ou pendant d'autres. Nous vous demandons de parler lentement, de dire votre nom, de dire le pays d'où vous venez, parler clairement et lentement, mais vous pouvez vous exprimer dans votre propre langue. Éteignez vos téléphones, éteignez le parleur de votre micro. Les questions et la participation sont toujours les bienvenues, puisque c'est vraiment l'objectif de la semaine. Assurez-vous donc de poser vos questions, de vous présenter à d'autres collègues, de rencontrer d'autres personnes, et relaxez-vous, respirez. Je me souviens de ma première réunion à ICANN. Je suis déjà ici depuis 5 ans et je me souviens que je n'étais pas du tout relaxée. Hein. Je n'étais pas détendue, mais j'aurais dû me détendre. Les objectifs pour la journée sont de permettre à toutes les personnes qui sont présentes de plonger assez rapidement dans l'implication à l'ICANN et de comprendre un petit peu comment fonctionne l'ICANN, quelle est la structure, comment les processus fonctionnent et de savoir un petit peu ce à quoi correspond cette communauté. Une des choses que nous avons tous en commun, c'est que tous nous avons déjà eu notre première ICANN. Pour certains d'entre nous, nous sommes devenus membres du personnel. Pour d'autres, nous faisons simplement partie de la communauté. Mais nous sommes tous présents pour vous aider, pour vous guider. Il y a des gens dans la salle qui peuvent vous donner un point de vue, que ce soit les membres de la communauté, les membres du personnel, les anciens. Il y a des opportunités de rencontrer d'autres personnes ici. Et si vous êtes perdu, eh bien, le personnel a un badge bleu comme celui-là. Donc nous sommes tous prêts à vous aider pour trouver votre chemin vers la salle que vous cherchez, vers la session que vous cherchez. Ou alors, si vous avez une question par rapport à un acronyme, si vous n'arrivez pas à trouver une personne que vous cherchez, nous sommes là pour vous aider. Vous êtes entré dans la salle, c'est déjà une première étape. Nous allons maintenant vous renvoyer de cette salle avec un meilleur état d'esprit que lorsque vous y êtes entré. Nous souhaitons nous assurer que vous avez l'opportunité de poser vos questions aux intervenants d'aujourd'hui s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose qui est confus. Ou alors, s'il y a des choses qui n'ont pas de sens pour vous, eh bien, nous souhaitons vous fournir cette opportunité de poser vos questions. Alors, pendant toute la journée, nous allons parler de l'expérience du nouveau. Nous allons parler de l'écosystème de l'Internet et de l'ICANN et quelle est la place de l'ICANN dans l'Internet. Nous allons également parler d'autres organisations dans l'écosystème. Nous allons parler de l'approche multipartite, le travail de l'ICANN. Nous allons parler de la réunion, qui bien sûr va être fatigante, mais on parlera d'autres choses aussi. Et puis, comment rester impliqué? Donc, comment est-ce que vous pouvez prendre ce que vous avez, utiliser ce que vous aurez appris pendant la semaine par la suite? Et je crois que c'est important. Je dis toujours lors de ces séances que ce que je préfère lors des réunions à Cannes, c'est la fin. Et ce n'est pas parce que c'est terminé, mais c'est parce que j'ai appris quelque chose de nouveau. Et je peux prendre ce que j'ai appris, le ramener dans mon travail au sein de l'ICANN et l'appliquer dans ma vie, dans mon travail et me remettre au travail donc différemment. Alors, pour commencer, ma première réunion de l'ICANN, c'est en fait ma 15e réunion ICANN. Ça fait donc, ça faisait 5 ans que j'étais déjà dans l'ICANN quand j'ai été employée. Et au départ, ma première réunion était à environ 700 km de chez moi, mais c'était comme si j'allais sur la Lune. Et je croyais déjà bien connaître l'ICANN, puisque cela faisait déjà 5 ans, ça fait maintenant 8 ans que je suis là, et à chaque fois que je reviens, j'apprends quelque chose de nouveau. Je m'assieds dans les séances, je participe et j'écoute. J'écoute les différentes communautés, mais lorsque je suis arrivée la première fois, il y avait tellement de séances auxquelles je souhaitais participer. J'avais donc mon temps, j'étais préparée, j'étais parée même, et je regardais toutes les séances. Je suis passée par ces séances. Et à la fin de la semaine, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais digérer tout ça? Je ne recommande pas cette approche. Je vous recommande d'écouter aujourd'hui et de penser un petit peu à ce qui vous correspond. Il y a des séances donc pour les nouveaux, mais n'empilez pas trop de séances sur dans votre journée. Et puis, n'oubliez pas de vous restaurer, de vous rafraîchir, etc. Si c'est votre première réunion, sachez que tous nous sommes passés par là. Nous avons tous eu notre première ICANN. Donc, certains des boursiers pourront vous parler de leur première réunion également. Je leur donnerai cette opportunité. Et en général, c'est intéressant de savoir un petit peu ce que font les autres. Il y a des groupes qui se comprennent, il y a des gens qui se disent bonjour, qui discutent les uns avec les autres, et parfois on ne sait pas trop où se situer. Parfois on ne sait pas trop de quoi parlent les gens, etc. Mais j'espère qu'à la fin de la journée, vous aurez l'opportunité de mieux comprendre certaines choses lorsque vous entendrez les gens parler de la CCNSO, de la GNSO, de l'ICG, etc. Je peux vous donner plein de sigles comme ça. Vous allez entendre parler de telle et telle chose et vous allez mieux comprendre ce à quoi ça correspond. Janice au micro. J'ai deux anciens du programme des boursiers, Mike et Jason, et je vais en fait leur demander de se mettre debout pendant quelques instants et de se présenter. Ce sont des gens qui pourront vous faire part de leur expérience. Ginny et moi, on est personnel, donc oui, d'accord, vous avez déjà eu votre première ICANN, mais vous faites partie du personnel. Mais ces deux personnes, elles sont entrées dans la salle tout comme vous. Le programme des boursiers, c'est un programme qui a 9 ans, qui rassemble des personnes des pays en voie de développement dans la communauté ICANN. Nous les aidons à financer leur voyage et donc ils ont ce type de séance tous les matins, à 7h30 du matin, ils se lèvent tôt donc, mais elles sont ouvertes à tous. Nous en parlerons d'ailleurs un petit peu plus tard. Et ils peuvent discuter de manière assez intime avec les présidents des différentes organisations qui viennent prendre un peu de temps avec eux, ces boursiers. Mais ce sont des séances ouvertes, donc vous pouvez y participer. Alors Jason, on va vous demander de vous présenter. Jason et Wanda auront le micro pendant toute la journée et donc à n'importe quel moment lorsque vous souhaitez nous arrêter parce que vous entendez par exemple un sigle que vous ne comprenez pas ou si nous avons dit quelque chose qui n'est pas clair, que vous ne comprenez pas le contexte, n'hésitez pas à lever la main. Nous sommes en cours de séance où nous souhaitons vraiment que vous puissiez poser vos questions à n'importe quel moment. N'hésitez pas à nous interrompre. Vous pouvez regardez dans la salle. La salle n'est pas pleine. Hein. J'espère que tous vous reviendrez cet après-midi et que nous aurons d'autres personnes qui viendront de s'inscrire. Mais comme Ginny le disait, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont présents ici sont nouveaux. Donc, il ne faut pas hésiter à poser les questions. C'est le moment. Ce sera peut-être moins facile le reste de la semaine parce que nous sommes là pour ça. Jason, vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Jason Hines. Je viens de Barbados, et dans les Caraïbes, Je suis très heureux d'être ici. C'est la première fois que je suis boursier. Cela fait déjà 4 réunions que je suis là. C'est la deuxième fois que je suis boursier. La première fois, j'étais impressionnée par le nombre de réunions, le nombre de personnes qui étaient présentes. Je viens d'une petite île. Donc, il est inhabituel de se retrouver dans une conférence de cette taille. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient sympathiques. Et donc, la première fois, j'ai essayé d'absorber un maximum de choses. Mais je ne sais pas si ça a été finalement la meilleure approche. En plus, avec le décalage horaire, c'était difficile. C'était intéressant, mais c'était quand même une expérience impressionnante. Avec l'apprentissage de tous les sigles, j'essayais donc de m'intégrer dans la communauté, mais les gens étaient là pour m'aider. Le personnel, les coachs, toutes les personnes de la communauté étaient prêtes à m'aider. On peut arrêter quelqu'un dans un couloir pour lui demander de l'aide, puis se mettre finalement à discuter avec cette personne de manière très intéressante. Donc j'espère que vous aurez la même expérience. Et finalement, je me retrouve en famille. Cela est vrai depuis la première réunion. En plus, on se retrouve sur Facebook, etc. Que je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour à tous. Je m'appelle Wanda Perez. Je viens de République dominicaine, également une île des Caraïbes, comme Jason. C'est la première fois que je participe à une réunion ICANN. Je suis là en tant que coach et je suis là pour la première fois en tant que coach, mais je suis membre de l'ICANN depuis Los Angeles. J'ai commencé à travailler avec les unités constitutives des fournisseurs d'Internet. Je fais partie du chapitre de l'Internet Society en République dominicaine. Je fais partie du conseil d'administration. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de nous rendre dans les universités pour présenter l'ICANN au niveau local. Parlons de la gouvernance de l'Internet, de l'écosystème de l'Internet. Et on ne peut pas parler de l'écosystème de l'Internet sans parler de l'ICANN. Donc, dans nos présentations à l'université, nous parlons de l'ICANN en partie. Et nous expliquons comment les gens peuvent participer à l'ICANN. Et je crois qu'une des meilleures choses que nous avons dans ces réunions, c'est de pouvoir collaborer avec des collègues. Depuis ma première ICANN, je suis entrée en contact avec différentes personnes, par exemple avec Jason, avec Stéphane d'Argentine. Et donc, nous avons un grand réseau qui nous aide à améliorer notre travail au niveau local. Comme Janice l'a dit tout à l'heure, il n'est pas nécessaire de faire partie du conseil d'administration ou d'une unité constitutive ou d'une organisation de soutien. On peut simplement se rendre chez soi, au niveau local, et travailler à ce niveau. Et ça, c'est très important. Voilà, je vous souhaite une excellente réunion et je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. Janice au micro. Merci Wanda, merci Jason. Donc, encore une fois, j'espère que cela vous aide, vous met à l'aise pour le reste de la semaine. J'aimerais également vous dire que nous comprenons qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent un peu l'ICANN, d'autres moins. Donc, nous allons commencer par la base. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Si déjà vous avez compris telle ou telle chose, vous en êtes à un niveau supérieur, eh bien, les intervenants qui viendront sont prêts à écouter vos questions. Nous avons Andrea qui va nous parler de la partie suivante de la présentation. Ensuite, Nigel Hickson viendra nous parler. Ces personnes ont de l'expérience et ils sont prêts à répondre même aux questions difficiles. Donc, comprenez bien que nous commençons par la base parce que nous avons différentes personnes qui viennent à différents niveaux de compréhension de l'ICANN. Mais nous restons le fait qu'il y a des personnes qui travaillent dans les gouvernements, qui travaillent dans les universités, qui travaillent dans les ONG, etc., ou dans les entreprises, et qui comprennent déjà le modèle de l'ICANN et qui souhaitent en savoir plus. Donc, n'hésitez surtout pas à exploiter l'expérience que vous aurez cet après-midi et à poser les questions difficiles, parce qu'il y a sans doute quelqu'un juste à côté de vous qui aurait souhaité poser la question que vous allez poser. Donc, je voulais simplement vous dire cela. Je sais, je comprends, il y a des gens qui comprennent déjà, qui sont là pour en savoir plus. Et nous sommes là pour ça. Mais il faut lever la main pour que nous sachions la question de l'intervenant micro. Donc, j'ai à côté de moi Enjoyo qui s'occupe de l'engagement. Il représente la région européenne. Et il va nous parler un petit peu de l'ICANN.
And if you want to take it away, Andrea.
Donc, nous avons Andreas avec nous. Andreas au micro. C'est un petit peu intimidant d'être là. J'ai l'impression d'être une personne importante. C'est assez impressionnant, cette grande salle. Mais finalement, pas vraiment. Parce que, en tant que personnel à Cannes, nous avons un petit peu un rôle de secrétaire en termes de développement de politique. Et mon rôle en particulier, en tant que responsable de l'engagement, c'est d'impliquer davantage de personnes. Donc, je comprends que cela peut sembler intimidant, mais ne soyez pas intimidés, parce qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un avec un badge bleu, vous avez donc un badge personnel ICANN, et n'hésitez surtout pas à poser vos questions à ces personnes. À la base, nous sommes à votre service. Nous souhaitons que vous vous sentiez à l'aise dans la communauté. Nous souhaitons que vous compreniez ce qu'est la CAN. Nous souhaitons vous aider à dépasser l'obstacle des sigles. Nous ne sommes pas des personnes qui restons en cercle fermé, donc n'hésitez pas à exploiter nos connaissances. Alors, maintenant, passons par une présentation générale de l'ICANN. Je n'aime pas beaucoup les diapositives, mais je vais quand même... Parce que vous savez qu'en tant qu'homme, je ne peux faire qu'une chose à la fois, n'est-ce pas? C'est assez typique. Mais enfin, je vais quand même faire cette présentation. Donc, nous avons des composants essentiels pour comprendre l'Internet. Lorsqu'on se lève le matin, il ne faut pas prendre pour acquis que on peut faire apparaître WhatsApp, faire apparaître Facebook, etc., sans que il y ait quelque chose derrière. En fait, cette technologie est exceptionnelle. Elle est basée sur des principes qui rendent ceci possible, qui rendent la présence de l'Internet possible. Nous allons un petit peu rentrer dans les détails de ceci. Mais l'objectif de votre participation à cette réunion, c'est justement de savoir, de comprendre comment est-ce que tout ceci est possible. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de se dire, bon, ça c'est merveilleux, j'arrive à l'utiliser tous les jours, mais je peux aussi y apporter quelque chose. Je peux faire partie de l'élaboration de cette technologie à l'avenir. Alors, la première chose, c'est déjà les normes techniques ouvertes. Puis le début du développement de l'Internet, l'idée, c'était que la technologie devait être accessible à tous. Et l'idée, c'était que les gens pouvaient créer de nouvelles normes. Et donc, plus les gens utilisaient les normes, plus cela créait de nouvelles normes. Donc, ceci est toujours vrai aujourd'hui. Donc, à l'ICANN, ce n'est pas moi avec tout un tas d'ingénieurs qui disent « Bon, voilà, tel est le nouveau format, nous allons maintenant échanger les fichiers comme cela sur l'Internet et tout le monde va faire la même chose. » Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il y a en fait des gens qui participent, des gens qui sont investis dans l'ICANN avec différents niveaux d'expertise et qui disent « Ah, je crois que j'ai une solution pour ce problème. » Et ensuite, cette personne partage ceci avec d'autres personnes et petit à petit, c'est comme ceci que de nouvelles solutions sont mises en place. Donc, c'est un peu une approche ascendante. Et c'est un petit peu différent de toute autre technologie. Donc, c'est complètement différent, par exemple, je ne sais pas, du chemin de fer ou du télégraphe. Il y avait toujours une autorité centrale qui disait « Bon, je vais faire partir le train d'ici, il va arriver là. » Dans notre cas, c'est les utilisateurs, c'est les gens qui développent les politiques.
And then, I think I'll skip on that one.
Bien, je vais passer rapidement là-dessus, j'en ai suffisamment dit. Mais ce type de forme de développement de technologie, ça ressemble un petit peu à la manière dont fonctionne l'Internet. Et ici, je parle de gouvernance de l'Internet, de direction de l'Internet. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de présenter les choses, mais c'est le seul terme qui existe. Lorsqu'on pense au terme gouvernement, on pense à une autorité centrale, à un building et certaines personnes spécifiques. Et comment ces personnes sont élues, sélectionnées, dans quelle mesure elles représentent la population, ça c'est une autre question. Dans le cas de la gouvernance de l'Internet, le système est extrêmement bien distribué. Il n'y a pas une seule autorité unique qui fixe les normes et les processus, qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Ça ne fonctionne pas de cette façon parce que la conception de la technologie elle-même ne permet pas cela. Donc l'ICANN, ça n'est pas une autorité centrale dans ce sens-là, mais c'est une plateforme. Comme un aéroport avec des avions qui partent dans tous les sens. Donc l'ICANN a cette fonction de coordonner le processus de développement des politiques. Vous verrez d'ailleurs des centaines de personnes qui travaillent là-dessus cette semaine et donc qui s'occupent de différentes couches de technologie. Je continue à avancer. Je vais accélérer un petit peu. Donc, dans cette gouvernance, nous utilisons le terme d'écosystème. Un écosystème, c'est exactement et précisément ce que j'essayais de vous expliquer il y a un instant. on connaît quel est l'écosystème au niveau de la nature. Il s'agit d'un ensemble de différents éléments, d'êtres, qu'ils soient vivants ou non, de plantes, animaux, etc., qui coexistent et qui interagissent les uns avec les autres. Et l'Internet ressemble beaucoup à cela. Il n'y a pas une autorité centrale qui dispatche son autorité sur les autres. C'est l'inverse. L'ICANN est l'organisation qui est visible parce qu'elle s'occupe du nommage et des adresses. Vous le voyez ici. Moi-même, si je lis maintenant cette diapo, je vais être perdue. Donc, je vais passer directement. Avons-nous la diapo sur les couches de gouvernance ? Vous voyez à quel point j'apprécie les diapos, n'est-ce pas ? Très récemment, j'étais encore étudiant. On a tous été étudiants. Et j'essayais de détecter qui suivait vraiment les diapos et qui suivait le discours. Et finalement, je me suis aperçue que les diapos, c'est le meilleur remède à l'insomnie. Mais malheureusement, il y a une diapo qui n'est pas ici sur la présentation et qui touche aux couches de gouvernance. Et c'est probablement la diapo qui éclaire un petit peu tout cela. Lorsque vous regardez l'Internet, ça semble quelque chose d'acquis. On se connecte et voilà, c'est fini. Mais en réalité, on passe par un réseau de réseaux. Et il y a des centaines de milliers de réseaux dans le monde entier. Et ça peut être le 3G sur votre téléphone mobile, ça peut être un satellite. Et chacun de ces réseaux a une personne qui le conçoit, le développe, assure son entretien. Et quand vous utilisez l'Internet, vous utilisez ce réseau dans l'espace. Qu'est-ce que l'espace ? Est-ce que c'est l'espace externe ? Non, c'est l'espace entre ces réseaux. Mais pour vous, on a l'impression qu'il s'agit d'un espace unique parce que tous ces réseaux utilisent la même technologie unique qui s'appelle espace des identifiants uniques. Donc, pour qu'on ait l'impression qu'il s'agit d'un seul système. Donc, en fait, il s'agit de coordonner ce système d'identifiants uniques avec des centaines de milliers de réseaux qui parlent entre eux et qui diffuse votre information entre les réseaux de manière aléatoire, mais sans échouer une seule fois. Donc, lorsque vous connectez votre ordinateur et que vous voulez aller sur google.com ou un autre site web, vous devez y aller, mais vous ne savez pas quel chemin vous allez emprunter. C'est la machine qui fait cela. Mais le fait que vous puissiez vous rendre sur ce site web, c'est parce que tout le monde utilise cette technologie. Et ça s'appelle le DNS, le système des noms de domaine. Donc nous avons normalement une diapo, j'espère que vous allez la présenter, qui va vous permettre de bien comprendre cela. Et je pense que cette diapo contient les informations essentielles que vous devriez ramener chez vous et expliquer ces informations aux autres. Je vais maintenant céder la parole à mes collègues, mais je serai parmi vous pendant toute la semaine, comme je l'ai dit dès le début. Je suis, à l'instar de mes collègues, à votre disposition. Vous savez, les pâtes instantanées chinoises, vous mettez de l'eau et voilà, c'est prêt. C'est la même chose, on est à votre disposition. Bon, ne nous jetez pas de l'eau chaude, mais on est à votre disposition pour vous apporter une réponse ou préciser un point de manière immédiate. Si vous avez une question sur les acronymes, sur autre chose, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Jenny au micro, merci à vous beaucoup, Andreas, pour ces aspects techniques. Donc, vous avez parlé un petit peu des composantes de l'écosystème et là, je vais céder la parole à mon collègue Jean-Jacques. Vous n'étiez pas ici avant, donc je vais vous rappeler de parler lentement pour le bien de nos interprètes. Donc maintenant, on va plus parler de l'ensemble de l'écosystème de l'Internet et du rôle de l'Internet dans cet écosystème. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Jason est dans la salle avec un micro. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Bien, Jean-Jacques au micro. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Dublin, en Europe et à la 54e réunion de l'ICANN. J'ai l'habitude de venir à chaque fois aux réunions des nouveaux venus. Donc peut-être que vous serez impressionnés à la fin de la journée par toutes les informations que vous aurez entendues. J'espère que j'aurai l'occasion de revoir certains d'entre vous. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer certains d'entre vous hier et je vous encourage à être aussi proactif que possible, aller au cocktail, parler aux gens. Oui, je vous regarde, vous en particulier. C'est pas simplement le personnel, mais tous les membres de la communauté. Ce qui est génial, c'est que c'est une communauté diverse, qui a différents points de vue et c'est précisément ce dont je vais vous parler maintenant. Comme Andreas a commencé à l'expliquer, l'ICANN s'intègre dans l'Internet comme une couche logique de l'Internet. Donc, il s'agit d'un niveau d'architecture de l'Internet. Et au sein de cette architecture, que certains ont appelée la colle, qui rassemble des centaines et centaines de réseaux indépendants qui permettent aux différentes couches de l'Internet de fonctionner. Il y a des institutions, par exemple l'IETF, qui fixent des normes. Et le rôle de l'ICANN lui-même a à voir avec les identifiants uniques. L'ICANN a pu spécifier et trouver une personne, un outil, un ordinateur spécifique connecté à l'Internet, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde. Donc tout cela est trouvable sur Internet. Et c'est ce qui se passe ici à l'ICANN. C'est un petit peu le rôle fondamental de l'ICANN, comme vous allez le découvrir au cours des prochaines journées. Passons donc à la diapo suivante. Donc l'ICANN est chargé de coordonner les identifiants uniques de l'Internet. Et là, il y a deux aspects, le nommage et les chiffres, plus les paramètres de protocole. Et toute une série de données d'une connexion Internet à l'autre. Donc, vous allez en entendre un petit peu plus à propos des numéros IP, des adresses Internet. Surtout lorsque vous allez entendre parler des questions d'actualité telles que les fonctions IANA, la transition du rôle de supervision des fonctions IANA. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus, mais voilà notre rôle. Il s'agit des identifiants uniques de l'Internet, des protocoles et des adresses. Comme le personnel qui se trouve ici à côté de moi, de l'ICANN, nous disons que nous ne sommes pas une organisation internationale parce qu'au niveau gouvernemental, on développe des politiques. Pour les politiques, ça se fait au niveau politique et ministériel. Donc, si vous développez une politique, vous concevez une politique, vous la soumettez au Parlement. Nous, le personnel ICANN, nous ne faisons pas cela. Nous sommes au service de la communauté. Et l'ICANN, en tant qu'organisation, c'est justement ce forum où la communauté technique mondiale de l'Internet et des utilisateurs de l'Internet se réunissent pour développer les procédures et normes associées au DNS et à l'espace des numéros de l'Internet. Donc nous avons un secrétariat et un forum de coordination, non pas un organe de direction. L'organe de direction, c'est finalement la communauté dans son ensemble. Donc, on peut voir l'ICANN de différentes manières. D'abord, il y a le personnel ICANN, qui est vu comme une organisation, une association à but non lucratif, dont le siège se trouve en Californie. Mais l'ICANN, c'est cette grande communauté. Des milliers de personnes qui se retrouvent chaque année pour parler de politique. Et c'est vous, aujourd'hui, dans cette salle, qui le représentez. Encore une fois, vous entendrez un peu plus parler de ce sujet-là cet après-midi. Je vais rentrer dans le détail des GTLD et IDN plus tard, donc je ne vais pas en parler maintenant. Alors, je vous ai parlé de cette communauté multipartie prenante. Certains d'entre vous dans la salle connaissent déjà ce modèle multipartie prenante. L'idée, c'est simplement que dans l'Internet, il y a des ressources mondiales, des ressources qui sont transnationales, où il faut un niveau transnational, un niveau international, Mais il ne s'agit pas de ressources qui sont uniquement entre les mains d'un petit groupe de personnes. Il y a toute une série d'acteurs, de protagonistes, d'intérêts, de différentes parties prenantes qui participent à l'Internet. Donc, ça concerne par exemple les entreprises de téléphonie qui utilisent l'accès à l'Internet, jusqu'aux entreprises web, aux politiques qui ont des responsabilités dans le domaine de l'Internet, jusqu'aux utilisateurs particuliers qui, en tant que particuliers, ont leur mot à dire pour ce qui concerne l'Internet. Également, la société générale dans son ensemble. Donc, il y a toute une série de personnes qui ont leur mot à dire dans l'Internet et dans l'espace Internet. Et cela implique beaucoup d'organisations et de mécanismes dans cet écosystème de l'Internet, comme on l'appelle, y compris l'ICANN. Et nous avons la possibilité d'avoir des discussions ouvertes impliquant tous ces acteurs, toutes ces parties prenantes. Et c'est ce que vous voyez justement ici à l'écran, où nous avons essayé de vous présenter d'une manière très générale les différentes parties prenantes impliquées. Oui, les différentes personnes ou groupes impliqués qui ont une participation dans cet écosystème. Vous voyez donc que cela implique bien entendu la communauté technique, les ingénieurs, les experts en cybersécurité et les entreprises, les entités commerciales en général, non pas simplement les entreprises techniques ou de l'Internet, mais toute une série de personnes, les banques. Les banques qui dépendent de plus en plus de l'Internet et tout autre secteur de l'économie qui, d'une manière ou d'une autre, est lié à l'Internet. Il suffit de regarder autour de vous toutes les entreprises, les entreprises de l'industrie musicale. Tous ont un intérêt dans l'écosystème d'Internet. Ensuite, les gouvernements, différents organes intergouvernementaux, le secteur académique. Je crois que plusieurs d'entre vous viennent de ce secteur-là. Société civile et utilisateurs de l'Internet. Et ensuite, la communauté technique, qu'on appelle les opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement. Vous en entendrez parler un petit peu plus tard. Par exemple, .com, ceux qui gèrent le .com, qui vendent ces noms de domaine au public. Donc, toute cette communauté qui sont censés lancer une politique, la négocier et l'adopter par consensus. Tous ces gens sont censés faire cela. Et voilà ce à quoi cela ressemble. Voilà un petit peu un aperçu général des principaux comités à l'ICANN. On les appelle les SO et AC, Organisation de soutien et comités consultatifs. Très rapidement, je vais en évoquer certains. Comme vous voyez ici, CCNSO. Alors, laissez-moi vous dire que vous allez être confronté à un certain nombre de sigles. CCNSO, c'est pour les extensions géographiques. Il y en a 220 environ. .uk, .ie, donc ce sont les gens qui permettent à ces noms de domaine de fonctionner et assurent une coordination mondiale. Ensuite, à droite, vous voyez la GNSO, donc l'organisation de soutien pour les noms de premier niveau génériques. Ce sont les bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre qui s'occupent des autres noms de domaine, .pub, .ninja, .guru, etc. Tous ces nouveaux domaines qui commencent à émerger. Et avec cela, les bureaux d'enregistrement, le secteur académique, les ONG et les entités commerciales en général. Donc, lorsque toutes ces personnes se réunissent, souvenez-vous qu'il y a tous ces secteurs qui se réunissent au sein des comités. Donc, quand vous assistez aux réunions de ces différents comités, vous apercevez qu'il y a plusieurs points de vue et donc on essaie de prendre des décisions qui représentent un consensus avec le plus de représentativité possible dans l'espace de l'Internet. Ensuite, en bas, il y a des comités surtout spécialisés sur des aspects techniques, la gestion de la zone racine, la sécurité, la stabilité de l'Internet. Ensuite, les ASO qui s'occupent des numéros, les adresses IP, la coordination de l'attribution des numéros et tout cela également au niveau régional. Ensuite, la communauté at large qui s'occupe surtout des utilisateurs finaux, qu'ils soient particuliers ou qu'il s'agisse d'entreprises, qui ont également voix au chapitre au sein de la communauté de l'ICANN. Ensuite, le GAC. Je crois qu'il y a plus de 155 gouvernements. Sierra Leone vient de nous rejoindre. Donc, nous sommes 155 gouvernements représentés à l'ICANN, plus de 30 observateurs, le Conseil de l'Europe et autres organisations intergouvernementales, l'UNESCO, entre autres. Donc, nous avons plus de représentation de la part des gouvernements que d'autres organisations internationales. Donc, nous avons de plus en plus de représentation internationale, que ce soit au GAC et dans d'autres comités. Donc, nous sommes de plus en plus internationaux pour montrer que l'Internet va au-delà des frontières et notre communauté le démontre. Bien, comment cela fonctionne ? Une fois que j'ai décrit le système et que j'espère que vous aurez l'occasion cette semaine d'aller aux réunions de la GNSO, de la CCNSO, de la LAC pour voir comment ces comités fonctionnent, parce que au sein de ces réunions, vous verrez qu'il y a différents points de vue qui se retrouvent, qui discutent, et une fois qu'ils adoptent des politiques par consensus, ils envoient des recommandations sur les politiques pour approbation au conseil d'administration de l'ICANN. Et le conseil d'administration de l'ICANN reflète la diversité qui existe dans ces différents comités, parce que le conseil d'administration de l'ICANN est nommé par tous ces groupes. Donc là encore, vous voyez ces couleurs qui représentent les différents groupes des parties prenantes, qui vous montre que le conseil d'administration, ça n'est pas un conseil d'administration traditionnel avec les grands investisseurs qui siègent au conseil d'administration. Chaque partie prenante, chaque groupe de parties prenantes qui nomme un membre du conseil d'administration de manière relativement bien équilibrée, ensuite des membres qui sont nommés par le NOMCOM. Et ensuite, les membres du conseil d'administration qui sont là pour amener encore plus de diversité au conseil d'administration, pour apporter un autre point de vue et d'autres compétences au conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration est saisi de ces recommandations et éventuellement les adopte. Vous avez ici les noms, les liens si vous voulez obtenir plus de détails sur ces organisations. Je vais peut-être parler des organes de conseil technique. Alors, génie au micro. Voilà un petit peu pour un aperçu général de la structure. Cet après-midi, on va parler un petit peu plus en détail des SOAC, donc organisation de soutien et comité consultatif et organes consultatifs techniques. Alors, ces différents groupes et secteurs dont parlait à l'instant Jean-Jacques, ce sont eux qui constituent la communauté ICANN. Jean-Jacques peut peut-être nous parler rapidement du secteur privé et de la société civile. Et ensuite, on va passer à la gouvernance de l'Internet avec mon collègue Nigel Hickson, qui va nous raconter de belles histoires sur la structure de la gouvernance de l'Internet et comment cela fonctionne dans la communauté ICANN. Donc, je cède la parole à Jean-Jacques avant de céder la parole à Nigel. Jean-Jacques au micro. Bon, je vous ai parlé un petit peu des entreprises. Vous avez les bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre. Et Pour bien comprendre la manière dont le DNS fonctionne, il faut savoir qu'il y a les entreprises, mais ensuite, comme je l'ai dit, il y a la communauté commerciale au sens plus large. Il y a les personnes, comme les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services Internet, qui dépendent plus de l'Internet, comme France Télécom, Orange, Google, Facebook, Amazon. Et ensuite, il y a cette communauté commerciale au sens plus large dont je vous parlais à l'instant. Donc, il s'agit d'experts techniques qui se retrouvent dans leur propre comité, la GNSO, en particulier dans l'unité constitutive commerciale, avec l'unité des parties prenantes des bureaux d'enregistrement et l'unité des parties prenantes des opérateurs de registre. Et ensuite, il y a une autre catégorie, c'est la société civile. Ce qu'on entend par société civile, d'une manière générale, parce que c'est un terme assez général, ce sont les ONG, les personnes, par exemple, qui défendent les droits de l'homme, qui sont spécialisées dans les sciences sociales, etc. Et donc, ils se réunissent. Il y a deux sous-groupes des parties prenantes non commerciales. Là encore, vous aurez remarqué qu'il y a eu un événement organisé hier soir par l'unité constitutive des entités non commerciales. Et on a tendance à dire que les utilisateurs de l'Internet, des ONG, des universités, donc des organisations non commerciales qui se réunissent et représentent les utilisateurs plus larges de l'Internet et les unités constitutives non commerciales qui vont d'ailleurs organiser plusieurs ateliers et réunions au cours de la semaine. Cela rassemble des gens qui examinent la manière dont l'importance de l'implication et de la participation des ONG dans l'espace Internet pour s'assurer que l'espace soit sûr et optimisé. Donc voilà un petit peu une présentation générale de la manière dont la société civile, la société participe à l'IGAN. Donc vous aurez plus de détails par la suite, mais voilà un petit peu ce que fait la GNSO. Jenny au micro, merci Jean-Jacques. L'autre partie concerne les gouvernements. On va vous parler plus tard sur la manière dont les politiques sont développées à l'ICANN. Mais j'aimerais maintenant passer aux autres parties prenantes de l'ICANN. Nigel Hickson, pourriez-vous, s'il vous plaît, et c'est d'ailleurs la partie que je préfère à notre réunion, parce qu'il est toujours intéressant d'entendre cette partie-là de votre intervention. Je sais que vous aimez vous promener tout en parlant, donc est-ce qu'on pourrait avoir un micro volant? Jason, est-ce que tu peux prêter ton micro à Nigel et je t'en donnerai un autre?
Good morning.
Bonjour. J'aime être debout pour parler. Et en plus, on est haut là, donc j'ai vraiment l'impression d'être le président, que je suis plutôt ministre. C'est peut-être plus approprié pour un dimanche. Cette salle est vraiment impressionnante. Elle est superbe, mais je ne vous vois pas bien. Je ne sais pas pourquoi vous vous mettez au fond de la salle. Peut-être que vous avez trop bu hier soir, je ne sais pas. Qui est-ce qui s'est rendu à Temple Bar hier? Oh, mais alors, vous êtes ennuyeux comme groupe. C'est quand même sympa, non? Dublin, c'est une ville extraordinaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont de Dublin? Non? Ah si, très bien. Je ne savais pas qu'ils avaient laissé rentrer des Irlandais là dans la salle. Alors vous venez d'où sinon les autres? Bon, dites-moi pas tous. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Suisse? Heureusement que j'ai demandé parce que j'ai des mauvaises blagues sur la Suisse. Moi, j'ai travaillé à Genève. Est-ce que vous connaissez Genève? Il y en a qui connaissent? Oui, il y en a. La plupart des gens, ils vont quelques minutes et ensuite ils s'en vont. Mais non, c'est pas vrai. J'ai habité là-bas, c'est vraiment extraordinaire. Alors, je ne vais pas continuer à vous raconter des bêtises. Je vais maintenant passer dans le vif du sujet. Je suis très content de vous voir en tout cas, même si vous n'êtes pas très nombreux. À une époque, j'étais nouveau, bien sûr, à la CAN. Je fais partie de la CAN depuis 2012, depuis personnel depuis 2012. Et au tout début, quand je suis arrivée, il n'y avait pas ce programme pour les nouveaux. Ça aurait été très pratique. Merci, Andrea. Donc, je vais parler un petit peu de la gouvernance de l'Internet. Alors, qu'est-ce que c'est la gouvernance de l'Internet? Alors, tout à l'heure, Andrea a parlé de l'écosystème de l'Internet. Et on parle souvent de l'écosystème de l'Internet. Et à l'ICANN, bien sûr, nous occupons une petite partie de l'écosystème ou de la gouvernance de l'Internet. Nous avons des noms et des numéros. Il y a d'autres organisations qui font beaucoup d'autres choses. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière, s'il vous plaît? Voilà. Je ne suis pas très bon en technologie. Il y a d'autres organisations qui s'occupent d'autres choses. Et donc, au cours des 20 minutes à venir, nous allons parler un petit peu de ce que font ces autres organisations. Mais d'abord, avant de rentrer dans les détails de ce qu'elles font dans l'écosystème de l'Internet, je voulais vous poser une question. À votre avis, c'est quoi la gouvernance de l'Internet? Dites-moi, prenez la parole. Pourquoi est-ce qu'on a la gouvernance de l'Internet? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup, la gouvernance de l'Internet? Les normes internationales, oui, c'est une chose. Il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rajouter quelque chose? Bonjour, je suis Boniface Witaba, je viens du Kenya. C'est la deuxième fois que je suis boursier. Je crois que la gouvernance de l'Internet, c'est former l'évolution de l'Internet. Tout à fait, c'est ça, c'est former l'évolution de l'Internet. Donc, l'Internet, bien sûr, c'est, comme le disait Andrea, quelque chose qui a évolué d'un réseau, de plusieurs réseaux individuels, qui est devenu donc cet écosystème que nous avons actuellement. Et pour beaucoup d'entre nous qui avons, ainsi dire, grandi en connaissant l'Internet, moi, quand j'étais adolescent à l'université, il n'y avait pas d'Internet. On ne connaissait pas l'Internet. Nous avons grandi et nous avons découvert l'Internet. Et donc, pour ma génération, finalement, nous n'avons jamais considéré l'Internet comme un acquis. Alors, pour certains d'entre vous qui êtes plus jeunes, ça peut être ange. Mais à une époque, on se demandait si c'était simplement une mode, quelque chose qui allait devenir démodé. Je me souviens très bien avoir parlé au gouvernement, à un ministre, et il me dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est un petit peu comme la planche à roulettes. Vous savez, il y a des modes, ça vient, ça va, on se demande si... les gens qui font de la planche à roulettes deviennent démodés petit à petit. C'était un petit peu la question qu'on se posait. Est-ce que ça va disparaître? C'est une peu les ministres. À l'Union internationale des télécommunications, à l'UIT, on parlait de l'Internet comme si c'était quelque chose qui était là-bas. Mais nous, on s'occupe de la télécommunication. L'Internet, il est là-bas. On ne s'en occupe pas. Ils se débrouillent tout seuls. Ils vont disparaître de toute façon. Nous, on s'occupe des télécommunications. C'est plus important. Ce n'est pas qu'ils étaient stupides, c'était simplement que l'Internet évoluait et donc ce n'était pas quelque chose qui allait être important nécessairement. Pour vous aujourd'hui, est-ce que c'est important l'Internet? Ah, bah, très bien, vous êtes enthousiaste pour l'Internet, c'est extraordinaire. Donc, tous les sondages qui sont faits, je ne consulte pas souvent les sondages, mais vous lisez les sondages où il y a des questions qui sont posées. Est-ce que l'Internet est important pour vous? Est-ce que vous allez souvent sur Facebook? Est-ce que vous prenez votre téléphone pour aller aux toilettes? Hein? Bon, c'est le genre de questions qu'on pose. Est-ce que l'Internet est plus important que la Guinness, par exemple, ou le café? C'est difficile à répondre. Mais on pose ce genre de questions. Et bien sûr que l'Internet est important. Et si vous pensez que je suis stupide, oui, bon, de toute évidence, l'Internet est important. Et si on éliminait l'Internet, s'il disparaissait? Vous allez dans certaines conférences et il y a des personnes qui disent que l'Internet est un droit. Bah, c'est très bien, mais on pourrait également dire l'Internet est un droit de l'homme. Bon, je ne sais pas. Mais de toute évidence, l'Internet est extrêmement important. Mais il existe uniquement parce qu'il a évolué. Il existe uniquement grâce aux acteurs dont André a parlé. Il est là parce qu'il y a eu des personnes avec leur intelligence qui ont permis de le faire exister. Et il peut disparaître. C'est possible. Il n'y a pas de droit que nous avons à un Internet unique. Et c'est pour cela que la gouvernance de l'Internet est importante. Voilà pourquoi vous êtes important lorsque vous venez à cette réunion de l'ICANN. C'est pour ça qu'il est important de comprendre cet écosystème, cette gouvernance de l'Internet, parce que tous nous devons nous engager, nous assurer pour que l'Internet reste unique, reste interopérable et accessible à tous. Et vous vous dites, bon, c'est évident, mais ce n'est pas si évident que ça. Un Internet unique, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour l'écosystème dans lequel nous sommes tous présents. Et bien sûr, il y a maintenant la question économique, il y a la question sociale, la question politique, etc., puisqu'il est présent dans tous les domaines dans lesquels nous existons. Donc, il est vraiment central, crucial pour notre vie. Il y a beaucoup d'autres acteurs dans l'Internet, dans l'éco-espace de l'Internet. Je vais passer en revue les différents noms, mais l'ICANN, c'est une des composantes de l'Internet. Vous connaissez peut-être l'Internet Society qui existait avant l'ICANN. Il y a beaucoup de chapitres ISOC dans le monde entier qui promeuvent le concept de l'Internet unique, de la présence de l'Internet pour tous. Il y a également les normes qui sont définies par le Conseil de l'architecture de l'Internet. Il y a l'IETF pour les normes ouvertes. Tout ceci sous-tend ce que représente l'Internet. L'Internet Society, qui fait donc partie de l'ICANN, et comme vous le savez, il y a beaucoup de discussions actuellement par rapport au transfert des responsabilités pour la gestion de l'Internet, pour l'architecture de base de l'Internet, donc le transfert de ces responsabilités des États-Unis à la communauté. Il y a les groupes d'opérateurs régionaux de l'Internet, et puis beaucoup d'autres entités, donc l'UIT, comme je l'ai mentionné, le W3C, etc. Qu'il y a d'autres organisations dans cet espace, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet espace. On ne peut pas être impliqué dans tous les domaines, mais il faut comprendre les bases. C'est un petit peu comme tout dans la vie. On ne peut pas s'enfermer dans une salle, s'isoler. Il y a des gens qui me disent « Bon, dans l'ICANN, tout ce qu'il faut faire, il suffit de bien faire son travail, il suffit de travailler de manière efficace et tout ira bien. » Tant qu'on travaille bien, les gens nous respecteront. Bon, c'est vrai, dans une certaine mesure, mais il faut aussi contribuer, non seulement bien faire son travail, mais contribuer. Dans les écoles, dans les universités, c'est bien d'être un excellent étudiant. C'est une bonne idée. D'ailleurs, ça ne m'est jamais arrivé. Mais non seulement il faut être bon étudiant, il faut également contribuer. Il faut sortir un petit peu de soi, sortir de ce que l'on fait habituellement et s'impliquer dans d'autres actes. On peut toucher à d'autres choses, être impliqué. Andrea en a parlé. C'est la même chose dans l'ICANN. Oui, il faut bien faire son travail. Oui, il faut s'assurer que ce que l'on fait est professionnel, mais il faut également s'assurer de bien savoir ce qui se passe en dehors. Nous n'avons pas le temps de passer par toutes ces choses, mais je vais vous parler de deux choses qui se passent en termes de gouvernance, de manière à ce que vous puissiez mieux connaître l'écosystème.
So, the UN, the United Nations.
Au niveau des Nations Unies, vous avez tous entendu parler des Nations Unies, bien sûr. En 2003 et en 2005, ils ont eu des sommets internationaux sur la société de l'Internet. Alors, le SMSI, vous avez peut-être entendu parler? Oui? J'imagine que pour certains d'entre vous, n'étiez pas encore nés en 2003, mais il y a eu le sommet international de la société de l'Internet. Et donc, à l'époque, on ne parlait pas vraiment de l'Internet, mais on parlait de la société de l'information. Et à la base, ce qui était très important, plus important que ce que nous faisons, c'était donc il fallait s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à la connectivité, à l'Internet. Nous considérons que c'est un acquis dans l'Ouest, en Europe, mais pour beaucoup d'autres gens dans le monde, ils ne peuvent pas se connecter à l'Internet. Je parlais des gens qui venaient de Nairobi. Il y a quelqu'un ici qui vient de Nairobi. Et donc, je lui parlais de la gouvernance de l'Internet il y a quelques semaines. Et il y a quelqu'un dans l'auditoire qui a dit « Nigel ». Enfin, ils n'ont pas dit « Nigel », ils ne me connaissaient pas. Mais ils ont dit « Vous nous parlez de la gouvernance de l'Internet. Ce dont vous parlez, c'est intéressant. Mais pouvez-vous parler de comment faire pour obtenir l'Internet, déjà ?» Et donc, je crois que parfois, il faut un petit peu de recul, il faut réfléchir vraiment à la chose suivante. Non seulement la gouvernance est importante, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'Internet ou alors qui ont une connexion qui est mauvaise, qui n'est pas fiable et qui coûte très cher. Donc, il ne faut pas oublier la fraction numérique qui existe et c'est quelque chose dont il faut absolument se préoccuper. Et c'est de cela qu'il s'agit, qu'il s'est agi lors des sommets mondiaux de la société de l'information. Donc, la connectivité, l'accès à l'Internet de manière abordable. Mais ils ont également parlé lors de ces sommets de la gouvernance parce que, bien sûr, on s'est toujours préoccupé de cette question. Alors, au tout début, les gouvernements ne s'en préoccupaient pas beaucoup de l'Internet. C'était un petit peu quelque chose qui ne touchait pas vraiment la vie de leurs unités constitutives ou de leur peuple. Mais petit à petit, les gouvernements se sont rendus compte de l'importance, de l'impact de l'Internet. Et bien sûr, ils ont cherché à comprendre comment il fallait s'en occuper en termes de gouvernance. Et il y a eu un débat qui a toujours existé. Est-ce que l'Internet doit être gouverné par des gouvernements au sein des Nations Unies, par un processus de Nations Unies, ou alors de manière multipartite? Alors, comme Andrea et Jean-Jacques l'ont expliqué, d'ailleurs, Jean-Jacques vous a montré le diagramme, à la CAN, nous gouvernons de manière multipartite. Au GAC, c'est justement le lieu où les gouvernements sont impliqués. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais un des débats lors de ces sommets internationaux, c'était justement la question des gouvernements, de l'implication du gouvernement par l'UIT ou par les Nations Unies. Et c'est ça la question. Est-ce que la gouvernance doit être faite de manière multipartite ou de manière gouvernementale? Ces sommets, plutôt le sommet de 2005, il y a eu donc l'agenda de Tunis, qui a été préparé et qui a posé les différents aspects de la gouvernance de l'Internet. Il a parlé de la question de la fraction numérique et cet agenda, cet ordre du jour de Tunis, a passé en revue le processus. Et donc, en 2015, fin 2015, en décembre, il y aura une analyse de cet agenda de Tunis. Et en fait, c'est l'opportunité qui suit celle qui a existé en 2005 de revoir un petit peu la question de la gouvernance de l'Internet. Il y a également eu une conférence qui a eu lieu au Brésil l'année dernière, en 2014, pour parler de ces questions. Mais cette fois-ci, en 2015, ce sera une opportunité beaucoup plus officielle que les gouvernements auront pour parler de l'avenir en ce qui concerne la connectivité et l'accès abordable à l'Internet. Alors, je ne vais pas passer dans tous les détails, je vais donner les grandes lignes, mais ce genre de questions est donc important. Alors, je vais terminer sur la chose suivante, et j'en ai d'ailleurs déjà parlé un petit peu de ces autres organisations qui existent dans ce domaine. Donc, il y a d'autres organisations gouvernementales internationales, les Nations Unies, l'UIT, l'OCDE, qui représentent un certain nombre de pays. Il y a un certain nombre de membres qui adhèrent à l'OCDE et qui sont très influents dans cette organisation. Il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il y a l'OMPI, qui s'occupe de la propriété intellectuelle, la Banque mondiale, d'autres organisations qui s'occupent des questions de la gouvernance de l'Internet. Nous avons la communauté de l'ICANN, il y a des organisations régionales, l'Union européenne, l'Union africaine, qui donc parlent de la gouvernance de l'Internet. Il y a les organisations commerciales, bien sûr. Comme Jean-Jacques le disait, les entreprises sont très impliquées dans la gouvernance de l'Internet, ainsi que dans d'autres domaines. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus et je voudrais terminer en vous demandant si vous avez des questions. Je ne sais pas si nous avons le temps pendant cette séance, mais je serais ravie d'y répondre. Et je vous en supplie, pendant la semaine, comme Janice vous l'a déjà dit au début, saisissez cette opportunité pour parler aux gens, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe au sein de l'ICANN ainsi que de manière plus large. Nous en sommes à un point vraiment crucial pour l'ICANN, un point de changement. Il est très important de se retrouver ici à Dublin puisque nous en sommes à un point de décision pour le transfert des responsabilités. Nous en sommes à la transition des responsabilités qui appartenaient au gouvernement américains et qui vont être transférés à la communauté internationale, donc le transfert des fusions IANA. Nous en sommes à une époque extrêmement importante en ce qui concerne la gouvernance de l'Internet avec le débat des Nations Unies. Donc, impliquez-vous, parlez à la communauté, surtout si ce sujet vous passionne. Et en tout cas, je suis très content de vous voir. Je vous souhaite une excellente semaine. Nouvel intervenant au micro. Nous avons des questions, donc n'hésitez pas à donner votre nom. Allez-y. Nouvelle intervenante au micro. Merci pour cette présentation. Je m'appelle Rita Itiwati. Je viens de Samoa, dans le Pacifique. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était excellent. J'ai une petite question. L'UNGA, c'est quoi l'UNGA? Nigel, le micro. Excusez-moi, je suis passée rapidement. Donc, l'Assemblée générale des Nations unies. C'est en fait l'entité de décision la plus élevée, si vous voulez, où les décisions sont prises. Alors, Ginny au micro. Autre question, je crois? Allez-y. Wanda, est-ce que votre micro fonctionne? Parce que... Non, ça ne fonctionne pas. Nous avons besoin des micros. Bonjour, je m'appelle Killian, je viens de Dublin. Donc, Nigel, merci beaucoup. Je pense que ma question a trait aux politiques de l'Internet. Je suis curieux par rapport à ça parce que tout à l'heure, vous avez mentionné qu'au début, les politiciens n'étaient pas vraiment intéressés par l'Internet. Est-ce qu'il y a un danger que l'Internet devienne politisé avec cette histoire de transfert des responsabilités des États-Unis? Et deuxièmement, est-ce que nous, les utilisateurs, la communauté, est-ce que nous sommes naïfs? Et est-ce que nous risquons quelque chose en considérant l'Internet comme un acquis? Nigel, le micro. Jean-Jacques pourra également parler de ça. Moi, je pensais qu'il ne vieillirait jamais, Jean-Jacques, mais finalement, il a vieilli tout comme moi. Excellente question. Donc, je vois que vous êtes étudiant en sciences politiques, sans doute. Alors, deux choses. L'Internet est devenu une question politique pour le gouvernement, de toute évidence. Et ce n'est pas étrange en soi. Est-ce qu'il a été politisé? Eh bien, oui, dans certains pays. Les gouvernements, dans certains pays, souhaitent intervenir, pardon. Au niveau de l'Internet, il y a des filtrages, il y a la censure, etc. Oui, de ce point de vue, effectivement, c'est devenu un outil politique. Mais je crois que l'intérêt des gouvernements dans l'Internet, évident. La gouvernance est importante parce que tout ceci sous-tend le tissu économique de la société. Maintenant, en termes des utilisateurs et de savoir s'ils sont naïfs, je crois que la question est difficile. Nous sommes tous des utilisateurs, n'est-ce pas? Lorsque nous nous levons le matin, lorsque nous allumons la lumière, nous ne pensons pas tout de suite au système de distribution électrique. Nous ne réfléchissons pas forcément d'où vient l'eau, comment est-ce que les différentes sociétés qui nous fournissent l'eau fonctionnent, etc. Non. Donc, c'est un acquis. Quand je parle à ma fille de l'Internet, elle me dit toujours « bah, l'Internet, il est là ». Et lorsqu'il n'est pas là, c'est vraiment frustrant. Hein, parce qu'on n'a pas de Wi-Fi, c'est affreux. Donc, je ne pense pas que les utilisateurs sont naïfs. Je pense simplement qu'il nous faut à tous bien comprendre la dynamique. Il nous faut mieux comprendre cette dynamique. L'Internet, ce n'est pas quelque chose qui est simplement là pour le bien de tous. Quelque chose qui a été créé, qui a été mis au point et qui n'existe que grâce à l'engagement de différentes organisations, de différentes entités. Ginny au micro. Il y a une autre question à l'arrière.
Je m'appelle Padmini. Je viens d'Inde. Je fais partie de l'Internet, de la société de l'Internet. J'ai une question que je suis régulièrement dans le cadre de mon travail. Il y a un certain nombre de fonctions dans la gouvernance de l'Internet. Il y a différentes entités qui s'occupent de différentes fonctions. Maintenant, comment est-ce que la séparation des pouvoirs fonctionne? Qui régule, par exemple, l'IETF? Qui régule l'ICANN? Est-ce que je pourrais avoir un peu de clarté sur ce point? Jean-Jacques au micro. Qui régule quoi? Alors, c'est un petit peu comme de dire... Qui régule les Nations Unies? Bon, c'est les États membres. Qui régule les États membres? Ben, c'est vous, parce que vous votez. Et bien sûr, cela peut prêter... cela n'est pas forcément vrai suivant les pays. Mais lorsqu'on considère l'Internet, eh bien l'Internet
a grandi de manière organique. Et donc, la gouvernance de l'Internet est en fait une question de coordination. Ce qui se passe, c'est que vous avez un certain nombre d'acteurs, une grande variété d'acteurs, qui travaillent ensemble. Et donc, cela revient à l'époque où l'Internet n'avait pas du tout la taille qu'il a maintenant. C'était au tout début des groupes d'universitaires, de chercheurs, qui ont décidé de collaborer plutôt que d'entrer en compétition et de développer différents systèmes de communication. Ils se sont rassemblés pour se mettre d'accord sur des protocoles, sur des normes, de manière à améliorer la technologie, de manière à ce que tout soit interopérable. Certains des pionniers me disaient au tout début qu'ils parlaient même des termes à utiliser. Fallait-il vraiment utiliser le terme de protocole? Enfin bref, donc de manière organique, la gouvernance est relativement inhabituelle. Et même le terme de gouvernance est un petit peu étrange parce que ce n'est pas une gouvernance en termes de politique. Si vous pensez à l'IETF, c'est l'élaboration des normes. Et il fonctionne comme n'importe quelle autre entité de mise au point de normes. C'est en fait différentes entités qui se rassemblent et sur la base du consensus qui définissent la façon dont la norme fonctionne. Et en fin de compte, une norme fonctionne non seulement, pas parce que c'est mandaté, mais c'est parce que un certain nombre de personnes se mettent d'accord là-dessus. Donc c'est la communauté concernée qui s'occupe de cette question. C'est une communauté qui est ouverte, donc vous pouvez tout à fait vous impliquer dans l'IETF si vous le souhaitez. Et Jen peut vous en parler un petit peu plus, mais c'est une manière un petit peu différente de gouverner. C'est en fait une expérience pionnière, une façon de fonctionner de manière différente parce que l'Internet est complètement différent de toutes les autres ressources. C'est une technologie qui, à la base, est mondiale, qui implique différentes couches de la société, différents acteurs, et donc qui nécessite une manière complètement différente de coordonner les choses. Donc, à la base, votre question est excellente et qui, finalement, n'aura jamais de réponse parce que nous continuons d'améliorer la manière dont nous coordonnons notre travail. Mais c'est un petit peu une expérience. Ce n'est pas une question de distribution. Il n'y a pas d'entité supérieure qui dit comment les choses doivent fonctionner. C'est un modèle ascendant. Tout part de la base. Ça, c'est un terme que nous allons utiliser de manière répétitive pendant toute la journée. Alors, un dernier point là-dessus. Cela revient à ce que disait Nigel tout à l'heure. Adressez-vous aux différentes personnes. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'ICANN et la gouvernance de l'Internet. Il y a des gens qui écrivent des rapports, qui écrivent des livres là-dessus. Mais je peux vous dire que pour certaines personnes, ils ne se sont jamais rendus dans une réunion de l'ICANN. Donc, je vous encourage à vous adresser aux différentes personnes. Alors, posez la question du pourquoi, du comment est-ce que l'évolution a lieu. Vous avez une excellente opportunité, donc n'hésitez surtout pas, ne soyez pas timide, adressez-vous absolument n'importe et je vous encourage à leur demander de vous faire part de leur point de vue. Ginny, au micro, il y a encore quelques questions. Je vais demander à la personne qui est ici d'abord de commencer. Allez-y. Je m'appelle Boniface Wissaba, je viens du Kenya. Puisqu'on parle de la gouvernance de l'Internet, il y a eu un incident qui s'est produit en Corée du Nord. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de réponse. Qui a pu éteindre l'Internet? En tant que gouvernance, est-ce que vous avez pu déterminer qui a éteint l'Internet? Parce qu'il y a eu beaucoup de doigts qui ont été pointés. On ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est les États-Unis d'Amérique? Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus? Nigel, au micro. Est-ce que vous pourriez répéter la question et parler un petit peu plus lentement, s'il vous plaît? C'était sur la Corée du Nord, c'est ça? Suite au film Sony qui a été... il y a eu un problème d'Internet en Corée du Nord. Jean-Jacques au micro. Vous ne pouvez pas vraiment couper l'Internet, mais vous pouvez travailler avec les entités qui fournissent l'accès à l'Internet. Donc, en fait, les prestataires, en général, ce sont des compagnies de télécom. Donc, cela représente un petit nombre de... si, par exemple, vous avez un petit nombre de prestataires de services Internet, eh bien, effectivement, il peut y avoir interruption. On ne peut pas interrompre l'Internet en général, mais si, par exemple, un prestataire une personne a accès par satellite à l'Internet, cette personne peut toujours y avoir accès à l'Internet. Nigel au micro. Ce qu'a dit Jean-Jacques tout à l'heure est important. Il faut parler aux gens et pas simplement lire ce qui est publié. Moi, je me souviens qu'avant avant d'être dans l'ICANN, on voyait des choses comme ça. L'ICANN a coupé l'Internet en Iran. Bon, mais parfois, il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des problèmes de câbles, parce que de toute évidence, l'Internet est fourni par ces câbles, donc sous-marins. De toute évidence, il peut y avoir des problèmes techniques. Donc, il y a certains des pays qui ont connu des coupures de l'Internet, mais ce n'est pas l'ICANN ou ce n'est pas l'ICANN qui a la possibilité d'éteindre ou de couper. Mais cela existe, ces coupures, mais ce sont des raisons qui sont différentes. Il y a une autre question là-bas.
Nadine, je viens d'Arménie. J'ai l'impression que le micro ne fonctionne pas bien, celui-ci.
Merci beaucoup. Nouvelle intervenante au micro. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Vous avez parlé de l'Internet en termes des droits de l'homme. Et vous avez dit que l'environnement numérique était essentiel et qu'il avait un impact sur tous les aspects de notre vie. Pendant la séance des nouveaux, la séance à laquelle nous participons, j'aimerais poser une question qui est très courante de la part des enfants. Est-ce qu'il est possible d'avoir un Internet sans danger et en même temps ouvert? Quelle est la priorité, donc? Avoir un Internet qui est sécurisé ou un Internet qui est ouvert? Nigel, le micro. Je vais essayer d'y répondre à cette question, mais peut-être que Jean-Jacques pourra donner une meilleure réponse. Donc, comme je le disais, lorsque l'Internet est la question principale pour la plupart d'entre nous, c'était déjà d'obtenir une connectivité à l'Internet. Et de toute évidence, pourquoi est-ce qu'on souhaite avoir cette connectivité à l'Internet? Parce qu'on souhaite avoir accès au contenu. Et au tout début, obtenir du contenu, c'était déjà difficile. Avant même qu'il existe le web, c'était difficile. Non, bien sûr, le contenu, eh bien, il existe et partout. Et bien sûr, l'argument a toujours été de savoir ce qu'il devait y avoir sur l'Internet. Est-ce que l'Internet, c'est un contenu positif et est-ce qu'on peut couper l'accès aux choses qui sont négatives? Ça, c'est un débat qui existe. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, on est passé d'une situation où les ministres ne se préoccupaient absolument pas de l'Internet. Non, il va disparaître de toute façon, c'est comme les planches à roulettes. Donc, ils sont passés de cette perspective à vraiment une réelle préoccupation. Pourquoi ils se sont inquiétés de l'Internet? Eh bien, parce que lorsque les journaux ont commencé à imprimer des articles sur le contenu et la façon dont cela avait un impact négatif, en particulier sur les enfants, eh bien, cela est préoccupant. Bien sûr qu'il faut s'occuper de ce qui existe sur l'Internet, du contenu. Mais dans cette situation, la question, c'est qu'on ne peut pas bannir tout le contenu qui est, entre guillemets, mauvais. Il faut surveiller la manière dont les gens ont accès, la façon dont les choses sont présentées, et bien sûr, tout ce qui est l'abus des enfants, tout ce genre de contenu doit être protégé dans le cadre de lois, de manière à ce que ce contenu ne soit pas directement accessible.
Mais lorsqu'il s'agit de voir comment traiter cette question, en fait, ça dépend de votre public et de qui vous êtes. Il faut que je vous quitte dans une seconde, donc je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Bonjour, je m'appelle Anna de Géorgie. Ma question était la suivante à Nigel. On s'est habitué à ce que l'Internet soit ici et ne s'en aille pas. Ça fait quelque chose qui fait partie de notre vie, et je l'espère, pour de nombreuses années. Par rapport à la gouvernance de l'Internet, ça ne fait pas des décennies ou des siècles qu'on en parle. C'est quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui s'est installé pour rester, pour toujours? Est-ce qu'on va parler de la gouvernance de l'Internet pendant longtemps? Pendant combien de temps? Parce qu'on sait tous que on va très vite savoir si le mandat de l'IGF va être prolongé ou pas. Mais même si on quitte l'IGF, il y aura de toute façon des applications régionales, mais combien de temps va durer ce débat sur la gouvernance de l'Internet? Est-ce que dans certaines situations, on pourrait être amené à cesser de parler de la gouvernance de l'Internet? Nigel au micro. J'espère pas. Clairement, il y a des questions qui sont débattues. Si vous regardez ça sur un graphe, on voit qu'on se concentre beaucoup sur la gouvernance de l'Internet. Pourquoi? En raison de la dynamique dont on a parlé, par rapport au fait de savoir s'il faudrait qu'il y ait plus de contrôle de la part des gouvernements, de la part des utilisateurs, etc., des parties prenantes. Donc, je pense qu'on va continuer à débattre de cette question. Et dans un certain sens, ça n'est pas une mauvaise chose, parce que il faut continuer à approfondir cette question. Donc, je ne pense pas que cette question va disparaître de la table. J'aurais dû en parler de l'IGF avant. Le Forum mondial sur l'Internet, c'est la meilleure des créations qui a été faite. L'agenda de Tunis a permis de créer l'IGF. Il s'agit d'une conférence annuelle qui va avoir lieu au Brésil le mois prochain. Et plus important encore, cela a permis de développer différents IGF. Combien d'entre vous ont été à des forums IGF? Oui, beaucoup. Donc là, on parle de la gouvernance de l'Internet et de toute une série de questions. Donc c'est une approche ascendante du niveau local au niveau régional et national et international. Donc, nous espérons que le mandat de l'IGF sera prolongé par les Nations Unies. Nouvelle intervenante dans la salle, Mona, de Jordanie. Lorsque j'ai levé la main pour poser une question, en fait, j'avais trois questions à l'esprit et j'en ai plus qu'une parce que vous avez déjà répondu à mes deux premières questions. Donc, la question que j'avais, vous avez parlé de l'Internet Society et des entreprises. Quel est le rapport entre l'ICANN et ces sociétés? Est-ce que l'ICANN se trouve au-dessus de ces sociétés? Nigel au micro. Comme Andreas l'a dit auparavant, l'ICANN fait partie de cet écosystème de l'Internet, à l'instar d'autres organisations. Et le rapport avec d'autres partenaires dans l'architecture technique de l'Internet, on a les registres Internet régionaux, APNIC, AFRANIC, etc., l'IETF, le W3C... Et nous avons constitué également un groupe qui s'appelle iStar Organisation. Et donc, on travaille ensemble, mais personne n'est au-dessus des autres. On est tous des entités séparées, mais on travaille ensemble. Et conformément au modèle ICANN, comme vous l'avez entendu auparavant, où il y a une organisation, par exemple l'organisation At-Large, qui est un pan important de la structure ICANN, parce qu'elle représente les utilisateurs, les associations d'utilisateurs, consommateurs, etc. Donc, il y a une coordination entre nous tous. Janie au micro, oui, on a encore le temps d'écouter une question dans la salle et on va passer à autre chose. Nouvel intervenant au micro, Chris, du Pays de Galles. Nigel au micro, Pays de Galles? Ah, vous n'avez pas eu un très bon résultat hier. Nouvel intervenant au micro. Oui, en fait, je suis anglais, donc ça me touche pas beaucoup. Alors, ma question est la suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que tous les gens qui ont maintenant accès à l'Internet, et plus le nombre de personnes ayant accès à Internet augmente, dans quelle mesure cela va affecter l'Internet et dans quelle mesure l'Internet va pouvoir être plus large et plus libre? Nigel au micro. Jean-Jacques, je te laisse le soin de répondre à cette question. Jean-Jacques au micro. Pour bien comprendre votre question, monsieur, est-ce qu'on pense que le fait d'avoir plus de gens ayant accès à l'Internet, ça va impliquer qu'on doit avoir plus de lois sur la confidentialité? Intervenant dans la salle, oui. Est-ce que ça implique qu'on va devoir avoir plus de lois pour une autoréglementation? Jean-Jacques au micro. J'espère avoir bien compris votre question. Si ce n'est pas le cas, reposez-la. Donc, alors, par rapport au volume de nouveaux utilisateurs, bien entendu, l'Internet a touché beaucoup plus d'utilisateurs qu'aucune autre technologie. 13 pour la télévision et un nombre extrêmement élevé pour l'Internet. En 25 ans, l'Internet est passé d'une centaine de milliers à plus de 3 milliards d'utilisateurs. Donc, c'est un bon résultat. Les estimations, les prévisions pour la prochaine vague divergent légèrement parce qu'il y a toute une série de défis démographiques et autres. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont avoir accès à l'Internet, mais il y a des problèmes de connexion à l'électricité. Comment pouvez-vous avoir accès à l'Internet si vous n'avez pas accès à l'électricité? Maintenant, une note plus positive. De plus en plus de gens ont un téléphone mobile, un téléphone portable, donc ont éventuellement accès à l'Internet. Donc, ils vont pouvoir avoir accès à l'Internet grâce à leur téléphone portable et à un prix moindre. Nous l'espérons. Donc, comment passer à 4 milliards d'utilisateurs? Peut-être qu'on va pouvoir le faire d'ici les 5 prochaines années. En tout cas, de manière si j'étais optimiste, je dirais que dans les 5 prochaines années, c'est possible. Maintenant, votre question par rapport à l'impact sur les lois concernant la confidentialité. Oui, ça va avoir un impact parce que c'est difficile dans ce contexte mondial. C'est difficile parce que cela nous renvoie aux valeurs fondamentales et aux valeurs concernant le contrôle. Moi, je vis en Europe et nous avons un cadre européen pour la question de la vie privée et ça n'est pas facile. Chaque pays a son point de vue là-dessus. Notre comportement en tant qu'individu ou en tant que société par rapport à la protection de la vie privée varie beaucoup de pays à l'autre. Si vous allez à La Haye ou à Amsterdam, les gens pensent d'une certaine manière. Tout est ouvert. Il n'y a pas de rideaux aux fenêtres, alors que dans d'autres pays européens, les gens sont calfeutrés et se cachent derrière des rideaux. Et c'est à quelques heures à peine en voiture d'Amsterdam ou de La Haye. Donc, cela nous renvoie aux valeurs fondamentales de la manière dont on vit d'un pays à l'autre. Et ça modifie un petit peu notre état d'esprit. Donc, évidemment, la protection de la vie privée, c'est un droit de l'homme fondamental. Mais pour ce qui concerne la protection de la vie privée et d'autres valeurs fondamentales, il faut être prudent là-dessus parce que ce qu'on ne veut pas avec la gouvernance de l'Internet, c'est que même s'il faut établir des niveaux de protection, de promotion ou autre, comme vous voulez l'appeler, pour les 4 milliards d'utilisateurs dans le monde, on ne veut pas imposer une culture, la culture d'un pays à un autre pays ou par-dessus la culture ou au-dessus de la culture d'un autre pays. Donc, en fait, avoir son mot à dire sur l'Internet par rapport à la protection de la vie privée, c'est finalement pas incompatible. Vous pouvez avoir un équilibre entre les deux parce que ici à l'ICANN, vous aurez une personne chargée de l'application de la loi qui va vous dire voilà, moi je traque les terroristes, j'ai besoin d'informations. Et ensuite vous aurez quelqu'un qui va plaider en faveur de la liberté d'expression, qui va lui dire attendez. Et ces personnes vont discuter et prendre ensemble une décision fondée sur le consensus. Et si vous pouvez parvenir à un consensus, alors vous serez en bien meilleure position que par le passé. Donc, regardez un petit peu, parce que autour de vous et tout au long de la semaine, il y aura beaucoup de débats de ce type dans les salles. Jani, au micro. Merci Jean-Jacques. Dernière question, je vous le promets, dernière question. Allez-y. Bonjour, Renza du Soudan. Peut-être que c'est une question très simple, je m'en excuse. Je ne comprends pas comment les entreprises participent au processus de développement des politiques. Janie au micro. En fait, la question, c'est dans quelle mesure les associations commerciales ou les entreprises en général participent au processus de développement des politiques. Jean-Jacques au micro. En fait, il y a deux grands domaines où les associations commerciales participent. S'il s'agit d'associations commerciales qui travaillent du point de vue des utilisateurs, ils peuvent participer à l'ALAC. Vous en entendrez parler. Ensuite, il y a les parties prenantes des unités constitutives commerciales et la GNSO. Par exemple, si vous représentez une association commerciale, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous poser d'autres questions. Je crois qu'il va y avoir une présentation plus détaillée sur la GNSO. Et à 16h, je crois que vous allez vous diviser en petits groupes avec une personne qui va plus parler des entités commerciales, une autre des gouvernements, l'autre de la communauté, de la société civile. Bref, vous allez vous diviser en petits groupes pour analyser plus en détail chacun de ces groupes. Janie au micro. Oui, tout à fait. Et merci d'avoir participé ce matin. Nigel a dû malheureusement nous quitter. Mais bon, nous avons encore 15 minutes avant de faire la pause déjeuner. Dernière chose que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une personne qui participe à une équipe de participation régionale dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Oui, oui, parfait. Est-ce que vous pourriez venir nous rejoindre? Parce qu'on voudrait parler brièvement de la manière dont le personnel ICANN régional participe à la mise en œuvre des politiques au niveau régional. Donc, nous avons les stratégies régionales et notre plan de travail quotidien. Dans cette participation multipartie prenante, nous travaillons avec nos partenaires de sorte que l'Internet Society et les autres organisations. Bonjour, merci de nous rejoindre. Je vais vous présenter dans une seconde. Nous avons d'ailleurs un ancien boursier à côté de nous. Donc nous avons 5 stratégies ascendantes au Moyen-Orient, en Afrique, aux États-Unis, Asie-Pacifique et Amérique latine. Donc ces stratégies ont été développées au sein de la communauté avec des objectifs de l'ICANN et elles sont ciblées au niveau régional avec des opérations, des activités, des objectifs qui vont dans l'intérêt des régions dont le but est de promouvoir le développement multipartie prenante. Et Farhad, vous pourrez nous en dire un petit peu plus pour ce qui concerne les activités qui ont lieu au Moyen-Orient et la stratégie au Moyen-Orient. Farhad au micro. Farhad Papaina, je viens de Jordanie. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille à l'ICANN. Avant cela, j'étais boursier. Donc pour les boursiers qui sont ici présents dans la salle, sachez qu'il y a un dicton qui dit que si vous avez été boursier un jour, vous serez boursier toute votre vie. Donc, la première fois que j'ai participé aux réunions ICANN, je l'ai fait en tant que boursier et j'ai énormément appris. C'est toujours intéressant de participer à cette réunion. Janie parlait un petit peu de la participation régionale de l'ICANN au Moyen-Orient et dans d'autres pays. Donc, avec mon collègue vice-président de la région, Bahadas Kangtous, nous gérons 26 pays, plus la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. À la fin de l'année 2012, certains membres de la communauté régionale nous ont dit, voilà, mettons en place une stratégie régionale pour la région, à l'instar de celle qui a été mise en place pour la région Afrique. La région Afrique avait commencé à travailler sur cette stratégie en juin 2012. Donc, moi, j'étais à l'époque membre de la communauté, Bahad également. Donc, on a dit, OK, constituons un groupe d'experts qui puissent travailler sur la définition des besoins les plus urgents dans la région. Pour ma part, je pensais que chaque région avait ses propres besoins. Et donc, c'est propre... besoin à fixer. Donc, les 22 membres de la communauté des 32 pays se sont réunis. Nous en sommes parvenus à la conclusion qu'il y avait 6 domaines prioritaires. D'abord, le secteur des noms de domaine. Ensuite, la sécurité et la résilience du DNS. La gouvernance de l'Internet. Et à l'époque, nous pensions donc que ces 3 domaines étaient prioritaires. 3 domaines et non 6, se reprend l'interprète. Donc, il y a un document stratégique sur notre site web, sur l'espace wiki, et la conclusion a été que cette stratégie pouvait être mise en place sur 3 phases différentes. À l'heure actuelle, nous en sommes à la 3e phase de mise en œuvre, donc la dernière phase. Je vais vous en dire un peu plus à propos de cette stratégie. Demain, nous avons une réunion sur la stratégie au Moyen-Orient. Je crois que c'est à 15h15. J'aimerais vous y convier d'ailleurs. C'est dans Wicklow, la salle Wicklow. Donc, nous avons des conclusions et des résultats très intéressants à partager avec vous. N'hésitez pas à venir. Janie au micro, merci beaucoup. Il y aura certainement d'autres réunions pour les autres stratégies. Si vous regardez l'emploi du temps, vous verrez que la région Afrique a une séance là-dessus et les autres régions également. Si la stratégie dans votre région vous intéresse, je vous invite donc vivement à participer à ces réunions où vous connaîtrez les dernières nouveautés sur la stratégie qui est mise en place dans votre région et sur la manière dont la communauté agit sur le terrain dans votre région. Nous avons encore 8 minutes avant de nous quitter pour le déjeuner. J'aimerais vous inviter à revenir cet après-midi. On va parler cet après-midi. Nous allons donc cet après-midi approfondir un petit peu le modèle multipartie prenante ascendant. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment cela fonctionne? En dire un peu plus à propos de notre communauté, comment elle fonctionne, comment est-ce qu'on se... réunis autour d'objectifs communs. On en a un petit peu parlé ce matin, un Internet unique interopérationnel avec un DNS et des identifiants uniques. C'est un petit peu le fondement même de notre travail ici à l'ICANN. Ce dont nous aimerions parler également, c'est ce dont vous allez entendre parler de la part de notre personnel par rapport à la GNSO, la CCNSO, la division des noms de domaine, la communauté technique. Donc, vous en entendrez un peu plus parler sur la sécurité et la stabilité, également la transition IANA et les fonctions IANA en général et qu'est-ce que cela veut dire. Lorsque vous entendez parler de la transition IANA, vous allez réellement pouvoir comprendre ce que cela veut dire. Lorsqu'on parle de transition du rôle de supervision des fonctions IANA, qu'est-ce que cela veut dire également? Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur ce qui s'est passé ce matin ou ce qui va se passer cet après-midi. J'espère pouvoir y répondre. Y a-t-il des questions dans la salle? Yafad au micro, j'ai une question pour vous. Pour qui c'est la première réunion ICANN ici? Moi, je me souviens que ma première réunion, c'était en juin 2008 à Paris. Et je me souviens que lors de ma première réunion, j'étais totalement perdue. J'étais toujours collée à mon chef régional, qui d'ailleurs était mon directeur à l'époque, et j'étais totalement perdue. Je ne connaissais personne et je l'ai prévenu, ne t'inquiète pas, je vais être collée à tes baskets toute la semaine. Et en fait, laissez-moi vous dire que je n'ai pas réellement réussi à comprendre ce dont il s'agissait. Si vous entendez des choses qui vous intéressent, écoutez attentivement. Essayez de retenir les acronymes, les sigles. Rentrez chez vous, réfléchissez un petit peu, reposez-vous peut-être pendant une semaine, puis essayez de digérer un petit peu ce que vous avez appris pendant toute la semaine. Voyez quels sont vos intérêts et comparez avec ce que vous avez retenu. Parce qu'en fait, les leçons, vous allez les retenir lorsque vous allez rentrer chez vous. Alors, pour bien savoir ce qui a lieu au sein de l'ICANN, les news alerts, donc les bulletins d'information réguliers, sont un outil très utile parce qu'ils approfondissent réellement un aspect ou une question d'actualité qui est débattue à l'ICANN. Je peux toujours m'adresser à mes collègues et obtenir des informations complémentaires, mais ce qui est important ici de savoir, c'est qu'on ne peut pas tout savoir, mais il faut savoir que les questions d'actualité, ce sont la responsabilité, la transition IANA, nouveau GTLD. En fait, c'est un vieux thème d'actualité. Mais essayez d'apprendre à propos de tout cela, de voir quels sont vos intérêts. Et je suis sûre que ça va bien se passer. Je suis sûre aussi que ça ne va pas être votre dernière réunion à ICANN. Il y a énormément d'opportunités pour vous si vous participez aux réunions à ICANN. Et c'était un monde extraordinaire, celui de l'ICANN. Janie au micro. Moi, pour ma part, je sais tout sur tout. Donc, si vous avez des questions, j'y répondrai ou je me tournerai vers Fahad pour y répondre. Alors, comme je l'ai dit ce matin en disant que ce que je préfère dans les réunions à Cannes, c'est que, quand elles se terminent, parce que je pense à tout ce que j'ai appris et j'essaie de l'inclure dans ce que je fais. Alors, en fait, je suis aussi contente de rentrer chez moi et de me reposer un petit peu parce que je crois que lors de la dernière réunion de l'ICANN, j'ai dormi environ 2 heures par nuit. Je ne vous le recommande pas. Je vous demande de vous hydrater, de manger. Comme je l'ai dit à ma première réunion à ICANN, j'ai été à toutes les réunions. Ne surchargez pas votre emploi du temps. Allez aux réunions qui vous intéressent et allez aux réunions qui, à première vue, ne sont pas de votre intérêt, mais qui peuvent vous apprendre des choses. C'est toujours intéressant. Vous ne pouvez pas aller à toutes les réunions qui figurent sur l'emploi du temps. Donc, voyez les réunions qui paraissent intéressantes, celles qui vous intéressent. Et ce n'est pas parce que votre chef vous a envoyé ici en disant « voilà, va à cette réunion parce que tu vas apprendre des choses intéressantes ». Mais choisissez réellement des réunions qui vous paraissent à vous intéressantes. Parce que ainsi vous pourrez ramener chez vous cet apprentissage. Donc maintenant, on va se séparer pour le déjeuner. Revenez s'il vous plaît à 13h30. Surtout, les boursiers et nouveaux venus, soyez précis à 13h30 de retour dans cette salle. Merci de votre attention ce matin. Et donc, on se retrouve à 13h30 cet après-midi. Merci.